Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous allons ouvrir notre Bible ce matin et je vous invite à lire un texte qui va nous situer dans notre réflexion. Alors, il s'agit donc de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, et puis quelques versets que nous allons lire brièvement. Alors, je rappelle Matthieu, chapitre 6, et nous allons commencer par le verset 2, tout simplement. Voilà ce que Jésus dit. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Nous voyons au verset 5 cette autre parole, qui fait suite d'ailleurs. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout, et puis naturellement la suite. Au verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors voilà le sujet de notre méditation aujourd'hui, et je relève trois paroles de Jésus, trois répétitions en quelque sorte, il insiste sur le propos. Il dira ceci, comme font les hypocrites, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment, ou alors comme les païens, qui s'imagine qu'à force de parole, et puis nous avons naturellement lu la suite. Je voudrais m'arrêter et mettre l'accent ce matin sur « comme font », c'est-à-dire cette imitation. Et naturellement, eh bien, le sujet qui est proposé, c'est l'hypocrisie. « Comme font les hypocrites ». Et il est aussi... parler des païens, ceux qui ne sont pas enseignés, qui ne connaissent pas l'esprit de l'Évangile, et ils s'imaginent, en faisant ceci ou en faisant cela, eh bien, qu'ils seront exaucés. Il y a un deuxième texte que j'aimerais ajouter à celui-ci, c'est dans l'Évangile de Jean, où il est dit ceci, alors peut-être qu'on n'y voit pas le rapport immédiat, mais il y a quand même un lien à faire, et nous allons le développer. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, c'est Jésus qui raconte une parabole, comme il a l'habitude, et il dira ceci. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Alors, quel rapport il peut y avoir à travers cet avertissement de Jésus comme les hypocrites? Et puis, Jésus qui nous dit, « Eh bien, moi, je suis venu. Je suis venu pour donner la vie et pour que cette vie l'ait en abondance. » Et nous allons voir qu'il y a parfois beaucoup d'illusions dans les pratiques ou dans l'exercice du fait religieux, et qui fait que, quelque part, eh bien, on pense que c'est ainsi. Et Jésus va prévenir ses disciples en disant, eh bien, ne suivez pas cet exemple, parce qu'il est vain, il est stérile, il est infécond. Et croyez bien que dans ce genre de démarche, en imitation à ce que nous avons lu, les gens vont avoir une vie abondante, parce que Jésus dit « Je suis venu donner la vie en abondance ». Et ce n'est pas seulement une abondance de bénédiction dans notre vie physique, matérielle, mais c'est aussi dans la vie morale et dans la vie spirituelle. Alors, on pourrait peut-être mettre en adéquation, la vérité qui égale abondance. Vérité, c'est-à-dire être vrai, eh bien, est une source d'abondance et de bénédiction. On peut le dire de cette manière, c'est une façon de le présenter. Faire vraiment, dire vrai, vivre dans le vrai, et tout simplement être vrai. C'est ça la grande leçon qui nous est donnée à travers le Sermon sur la montagne, dans ce chapitre 6, et avec cette promesse que si nous disons vrai, si nous pensons vrai, si... nous sommes dans le vrai, nous voulons vivre dans le vrai, eh bien, il y aura véritablement une bénédiction de Dieu, que le contraire, l'inverse, si l'on peut dire de cette manière également, eh bien, n'est qu'une illusion, tout simplement, qui va conforter peut-être notre religiosité, notre piété religieuse, mais qui n'ira pas beaucoup plus loin que cela. Et d'ailleurs, être vrai, n'est-ce pas la dignité et l'honneur d'un véritable chrétien? C'est cela. Et ça, nous le savons, hein, quand nous sommes dans le vrai ou quand nous sommes dans le faux, quand nous jouons la comédie, quand nous essayons de, eh bien, d'avoir finalement eh bien, là, une attitude qui ne correspond pas à, eh bien, à ce qui est vrai. On lit cette parole, « Vous faites pour l'apparence ceci et cela ». Il est parlé de l'aumône, il est parlé de la prière, il est parlé de la bienfaisance qui quelquefois peut être fait sous couvert eh bien, de la foi religieuse, tout simplement. Vous faites pour l'apparence, c'est-à-dire tous ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences, dans ce qui se voit aux yeux des hommes, dans ce qui se voit eh bien, là, dans notre monde tel qu'il est aujourd'hui, pour l'apparence. Et j'ai titré ce message « artificiel ». C'est-à-dire que j'ai donné le titre « artificiel » à ce message, tout simplement « artifice », qui peut avoir pour synonyme « factice », qui peut également, eh bien là, signifier « feindre », tout simplement « contrefaire quelque chose »,« simuler »,« faux »,« truquer », mot qui résume ce que Jésus répète dans ce que nous avons lu en premier, « hypocrite », tout simplement « l'hypocrisie ». L'histoire dans la Bible commence justement par ce genre de stratagème, à travers eh bien Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Un stratagème de la couverture de feuilles de figuier, si nous nous en souvenons, qui imagine une sorte de déguisement, une sorte de maquillage de ce qu'il faut cacher. Voilà, ça commençait là, hein. À la chute, eh bien lorsque Dieu a appelé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a dit, bien voilà, où es-tu? Et l'homme, prenant conscience qu'il s'est passé véritablement quelque chose, hein, dans cause et conséquence de la désobéissance, eh bien, a commencé, quand Dieu l'a appelé, que Dieu probablement s'est approché, il a commencé à se déguiser en quelque sorte. Bon, à l'époque, hein, il n'y avait peut-être pas autre chose que les feuilles de figuier. Toujours est-il que, voilà, il a pris une couverture et il dit, voilà, maintenant, comment tu sais que tu es nu? Oui, je suis nu, effectivement, et il ne voulait pas que Dieu s'aperçoive. Hein. Mais Dieu s'aperçoit de tout, il connaît tout, naturellement, il est le Dieu de la vérité. Et ses yeux, en effet, eh bien, parcourent le monde et il connaît toutes choses. Donc une forme de déguisement, un réflexe, en quelque sorte, c'est inné, c'est quelque part... C'est naturel chez l'homme, d'une manière ou d'une autre, et particulièrement quand il est en faute, quand il est dans la culpabilité, lorsque eh bien, il déroge, il est dans eh bien, là, une situation d'interdit, on peut peut-être le dire de cette manière, eh bien, il se déguise, il se maquille, il cache, il ne faut pas que ça soit vu. D'une façon, il ne faut pas qu'il soit pénétré à l'intérieur de lui-même pour que les gens disent, eh bien, non, c'est pas ça, tout simplement, c'est pas ça. Alors, nous allons faire deux comparaisons brèves, tout simplement pour introduire notre message. Et j'ai pensé au feu d'artifice. Oui, le feu d'artifice. Qu'est-ce que c'est le feu d'artifice? C'est un feu qui est provoqué par les hommes, naturellement, qui est composé par les hommes. Et c'est vrai que c'est toujours assez extraordinaire, hein, la façon dont les choses sont faites. Il y a des feux d'artifice qui sont splendides, magnifiques. Hein, et c'est un effet d'illusion dans les formes, et également dans les couleurs, tout simplement. Et ça frappe les regards. On se dit, lorsque l'on voit un beau feu d'artifice, c'est quelque chose qui impressionne, naturellement. On pourrait peut-être ajouter que c'est une forme d'éblouissement, tout simplement, et d'admiration fugace, mais c'est fugace, et c'est sans durée. C'est-à-dire que, voilà, hein, ça illumine le ciel, ça, finalement, eh bien, amène les gens... à s'enthousiasmer, à être admiratif, naturellement, mais que dure un feu d'artifice? Quelquefois, hein, on en voit, hein, à certaines époques de l'année, et quand il y a eu déjà 20 minutes, une demi-heure de feu d'artifice, c'est déjà pas mal, et quand on sait ce que ça peut coûter, c'est quelque chose, hein, naturellement. Donc c'est sans durée, voilà, c'est quelque chose, et c'est vrai, nous allons aller un petit peu plus en développant notre message, et nous allons voir que l'hypocrisie, c'est sans durée. Ça n'a pas de vie, ça n'a pas de... Il n'y a pas de... c'est infécond et c'est serré. Sinon pour soi-même, ça nous conforte nous-mêmes, mais nous savons ce qu'il y a à l'intérieur. Et Dieu connaît tout, nous l'avons dit tout à l'heure. Deuxième comparaison, c'est la comparaison que nous pouvons faire, eh bien, c'est cette alimentation élaborée industrielle que nous consommons tous les jours. C'est tellement pratique et c'est tellement facile. Hein, les supermarchés regorgent eh bien là, de produits d'une façon ou d'une autre, parce que c'est préparé. Enfin, bon, la boîte de conserve, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, vous ne faites pas la cuisine, vous ouvrez et puis vous mettez dans une casserole ou une poêle et puis alors, vous avez tout de suite un repas tout prêt. Hein, et heureux si vous trouvez ça bon, naturellement, et quand on a faim... naturellement. Donc, cette alimentation élaborée et industrielle, et nous avons son opposé, à travers une alimentation naturelle fait maison. Ça, c'est deux choses différentes. Mais le travail n'est pas le même. Et puis, la satisfaction n'est certainement pas la même. Fait maison, tout ce qui est authentique, qui privilégie la qualité sur la banalité. C'est ça la question. Et je pense que, bon, vous allez me dire que je m'éloigne peut-être un petit peu de mon sujet, mais on va le confirmer tout cela. Hein, on va... bien prendre, entre faire le distinguo entre ce qui est artificiel et ce qui est naturel, ce qui est vrai et ce qui apparaît vrai. Hein, on dit, il y a un mot qui le qualifie, un adjectif qui le ça veut dire spécieux, qui est l'apparence de la vérité, mais qui n'est pas la vérité, qui est une illusion de la vérité. Alors, comment la Bible nous enseigne cette vertu qu'est la vérité? C'est ça, c'est intéressant. Jésus, dans le sermon sur la montagne, et puis également et principalement dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, dit « Ta parole est la vérité ». La parole de Dieu, c'est elle qui est le fondement et qui peut nous normaliser, qui peut nous, finalement, nous conduire et de pouvoir apprécier ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et comme nous l'avons lu dans... chapitre 10, là où Jésus parlera de la vérité qui est la vie en abondance, eh bien cette vérité de Dieu, eh bien, elle est féconde. Elle porte du fruit, et elle porte du fruit nature et authentique. Voilà. Et tout chrétien, je dirais tout chrétien, non pas de nom, mais né de nouveau, qui a fait une expérience avec Jésus-Christ, c'est pas une question d'appartenance à une église ou à une dénomination religieuse, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, eh bien, porte en lui cette vertu de ce souci de la vérité. On est peut-être loin d'être pleinement et totalement à vivre la vérité, parce que nous restons des hommes faillibles, hein, malgré que eh bien, la Bible nous dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible, et ça, c'est une constatation que nous pouvons faire. Mais une chose qui est certaine, c'est que la caractéristique d'un véritable enfant de Dieu, d'un chrétien né de nouveau, eh bien, c'est qu'il va porter des fruits. Et des fruits qui ne vont pas faire illusion. Quelque chose où on va pouvoir reconnaître eh bien, qu'il y a là quelque chose à la fois de véridique, d'authentique, mais quelque chose qui eh bien, est une bénédiction aussi pour les autres, pour nous-mêmes et pour les autres. Être soi-même, voilà. Beaucoup de gens, et nous vivons dans une société où nous voulons feindre, nous voulons imiter, il y a un conformiste dévastateur dans notre monde. On le voit chez les jeunes, mais on n'a pas besoin hein, de regarder uniquement du côté des jeunes. Même les hommes, d'une manière ou d'une autre, dans leur généralité, veulent être en conformité. Hein, ils sont un petit peu comme voilà, des moutons de panurge, il faut être comme ça, parce que si on n'est pas comme ça, eh bien, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas, en quelque sorte. Être soi-même, c'est-à-dire être naturel. Voilà. Être naturel, c'est exprimer ce que nous le sommes à l'intérieur, et non pas avec une façade, et comme notre brave Adam qui s'était caché avec des feuilles de figuier, on les multiplie dans notre monde, les feuilles de figuier, pour qu'on ne donne pas l'apparence, on ne donne pas, finalement, eh bien là, le reflet de ce que l'on est à l'intérieur. Il y a une expression qui parle de double visage et double langage. Voilà. Hein, et c'est vrai qu'on va le voir dans le détail, à travers l'exemple que Jésus va nous donner maintenant, que c'était bien le cas du temps de Jésus, avec une certaine catégorie du peuple, et pas des moindres, c'était des religieux, et ça ce qui est très étonnant. Et on va découvrir ça. Hein. On va faire un check-up, hein, on peut l'appeler comme ça, qui nous enseigne, qui est indispensable maintenant pour comprendre. L'écriture dévoile un type, un état d'esprit qui a toujours existé dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité, qui existe encore aujourd'hui, peut-être ni plus ni moins, une sorte de mentalité qui donne l'apparence, mais qui n'a rien de véridique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cadre de l'artificiel, quoi qu'il en soit. L'artificiel dans des choses indifférentes de la vie, mais l'artificiel particulièrement dans le monde religieux, dans le monde soi-disant de la foi, par exemple. Le constat est évident, et ce constat voile la réalité de la foi selon les principes de la vérité. Or, et je vais parler d'une catégorie de gens qui ont eu véritablement, ont été des adversaires déclarés de Jésus, ses détracteurs. Or, les pharisiens pratiquaient une religion artificielle. Voilà. Ils étaient, depuis des lustres, là, bercés dans la loi de Moïse, dans toutes sortes de conditionnements, et avec le temple, avec toutes sortes de préceptes, toutes sortes de commandements, toutes sortes de lois, même si la loi n'était pas à mettre en cause, mais c'était la manière dont il la vivait, la manière dont il la pratiquait, et surtout la manière dont il l'utilisait pour les autres, pour les condamner. Et c'est ça, justement, ce qui était une aberration, en quelque sorte. Alors, il pratiquait une religion artificielle. Et Jésus va avoir, finalement, maille à partir avec cette catégorie. Je ne veux pas dire tous les pharisiens, parce qu'il y en a qui se sont tournés vers Jésus pour accepter son salut, mais une grande majorité. Et derrière cette artificialité, si je peux m'exprimer ainsi, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais toujours est-il, derrière ces apparences, il y avait aussi beaucoup de méchanceté. D'ailleurs, ce n'est pas les gens du peuple, ce n'est pas les petites gens qui ont crucifié Jésus, c'est véritablement ces gens-là. Parce qu'ils ne voulaient pas être dévoilés. Jésus leur apportait des messages qui allaient jusqu'au fond de leur cœur et qui les dévoilaient, qui les mettaient à nu. Comme, en quelque sorte, eh bien, Adam et Ève, ils étaient mis à nu par les paroles de Jésus. Et des paroles qui n'étaient pas difficiles à comprendre. Sermon sur la montagne, ses enseignements sur ceci et cela, etc. Eh bien, les mettaient à nu. Donc, ça, c'était véritablement, en quelque sorte, la grande révolution que Jésus a amenée dans le monde. Ne vivez pas selon, comme les hypocrites, etc., etc., mais il y a une autre façon. La caractéristique, finalement, des pharisiens, on va essayer de passer par le détail et rapidement, c'était l'orgueil, tout simplement, l'orgueil, qui est la racine de l'orgueil, comme l'argent, si on veut, parce que la Bible en parle de l'argent, mais l'orgueil, c'était d'être mieux, d'être supérieur, de trouver un positionnement de suffisance, d'où découlait, et c'est ça la gravité, c'est ça qui faisait finalement le mal, où découlait le mépris, et toujours, en quelques circonstances, c'était une forme de diplomatie, si je peux me permettre de prendre cette image, c'était de faire bonne mesure devant les autres, devant autrui, pour paraître mieux, meilleur, et d'en être félicité. D'ailleurs, Jésus le dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être en être vu. Autrement, vous allez perdre votre récompense. Lorsque tu fais l'aumône, lorsque tu fais un acte qui est un acte de charité pour aider finalement ton prochain, ne sonne pas de la trompette en disant « moi j'ai donné ceci, cela, etc. » Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Comme les hypocrites qui vont dans les rues, ils veulent être glorifiés par les hommes, je vous le dis, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion pour les autres en disant « mais ce sont des gens formidables. » Et surtout, ne faites pas comme eux. Parce qu'eux, ils savent pourquoi ils le font. Ils ne le font pas pour la gloire de Dieu, ils ne le font pas pour le pauvre qui va recevoir quelques oboles. Non, ils le font pour qu'on puisse dire du bien d'eux, être félicité. C'est ainsi que Jésus va dévoiler, il va mettre en lumière, il va mettre l'accent sur le fond de leur cœur, malgré le maquillage. Et bien là, en quelque sorte, derrière ce quoi ils se cachent, en quelque sorte. Donner la meilleure impression. Tout cela, c'est dit, de sa personne, de son rang, de son état, de sa situation. Est-ce que l'on ne voit pas ça aujourd'hui, Ça n'a rien changé. Que ce soit dans les choses spirituelles, que ce soit dans les choses de la religion, que ce soit dans le monde laïque même, autour de nous, c'est toujours de donner une impression qu'on est autrement. On est mieux, Et naturellement, alors c'est la compétition à ce moment-là. C'est la course pour être le premier et de faire. Alors ce ne sont pas des bonnes œuvres, hein, tout ça. Ce sont des œuvres qui sont mauvaises. C'est toujours de se mettre en avant et sur l'échelle des valeurs sociétales. Et alors ça a toujours existé. Hein, et c'est vrai que je pense, quand Jésus est venu au milieu de son peuple, hein, lorsqu'il a fait son apparition et qu'il a vu dans quel état se trouvait le judaïsme, se trouvait la foi des Israélites, et particulièrement de ceux qui étaient positionnés dans l'échelle de dignité. Oh, c'est quelque chose, comme on le voit encore aujourd'hui, avec les religions dites chrétiennes, hein, et qui sont là autour de nous, et nous voyons là, eh bien, ces gens qui paraissent sages, mais qui quelque part, il n'y a aucune sagesse, hein, naturellement. De vouloir se distancer du commun, et pour se donner une image de haute spiritualité, c'est ce que nous avons lu. Le service des hypocrites, parce qu'ils ne restent pas sans rien faire, naturellement, il y a eh bien, leur mentalité, mais ils font beaucoup de choses, justement, et pour nourrir cette hypocrisie, en quelque sorte. Eh bien, le service des hypocrites est tout empreint de cérémoniel, ça se reconnaît, c'était vrai pour les pharisiens, de ritualisme, qui en arrivait à étouffer la spontanéité de la vie. Vous servez votre tradition. Vous êtes là, mais votre cœur est éloigné de moi. Et vous donnez une apparence que vous êtes vraiment des enfants de Dieu, vous êtes des hommes de Dieu, mais dans la réalité, ce n'est pas ça du tout. Hein. On a l'exemple, naturellement, de ce pharisien qui rentre dans le temple, ça c'est très connu, naturellement, et qui là est en train de faire l'éloge, il ne prie pas d'ailleurs, hein. Il est en train de faire l'éloge devant Dieu de tout ce qu'il est, tout simplement. Hein. Alors ça étouffe là. La spontanéité de la vie, parce que tout est codifié, tout est enserré dans des normes, et alors en restant naturellement, en voulant mettre ces choses en pratique, on s'aperçoit qu'on se renferme et la vie de l'esprit disparaît, hein, quoi qu'il en soit. Jésus a des mots sévères, par exemple, dans Matthieu chapitre 15, qui... Là, va dévoiler, quand il dira, par exemple, et je veux prendre simplement le texte pour le citer, tout simplement comme cela, et au chapitre 15, au verset 6, il est dit ceci, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, car c'est en vain qu'il m'honore en enseignement des préceptes, qui sont des commandements d'hommes. Et avec ces commandements d'hommes, on en a fait tout un monde. » Dans lesquels on a renfermé, on a captivé les hommes en disant voilà, c'est ainsi, et c'est. Alors faites tous vos efforts pour arriver à tout cela, alors qu'on est loin de cette parole qui nous est donnée, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est une illusion. Alors arrêtez de vous prendre la tête et de vouloir concourir avec ceux qui sont devant vous, dépasser ceci et cela pour que Dieu vous bénisse et que vous puissiez mériter quelque chose. Il n'y a pas de mérite dans tout cela. Hein. Et ça traduit ce phénomène qu'on appelle dichotomie. Et vous savez, j'ai regardé un petit peu le mot, la signification, ça veut dire diviser en deux. Tout à l'heure, je vous ai dit deux visages de langage. Voilà. En fonction des circonstances, en fonction des situations, naturellement, on s'adapte. C'est vrai, l'homme est un caméléon, hein, c'est un champion hein, pour ça. Hein. Mais dichotomie, ça veut dire diviser en deux, tout simplement. Et quand Jésus dit, mais vous m'honorez de vos lèvres, parce qu'on l'entend, ce que vous dites. On voit, on entend vos belles prières, on voit vos actions extérieures, mais à l'intérieur, mais votre cœur est éloigné de moi. Vous ne le faites pas pour moi. Vous ne le faites pas pour ma gloire, vous ne le faites pas pour, finalement, eh bien, ce soit une bénédiction autour de vous, mais vous le faites tout simplement pour vous élever et vous mettre en avant. Alors, il y a des critères chez l'hypocrite, chez les pharisiens, on va rester sur eux naturellement, des critères et des normes de valeur. C'est selon leur positionnement à eux. Et les autres sont soit acceptés ou rejetés. Il n'y a pas de limite, hein, il n'y a pas de terrain du milieu, tout simplement. Ils sont acceptés. Si vous êtes comme eux, vous êtes acceptés. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec eux, si vous ne faites pas comme eux, si vous ne voulez pas vous plier à imiter ce qu'ils vous disent de faire, que eux ne font pas d'abord, eh bien alors à ce moment-là, vous êtes rejetés, tout simplement. C'est ce qui se passait, hein, le mépris des pharisiens du temps de Jésus par rapport aux petites gens, par rapport à ce qu'on appelait les publicains, les gens de mauvaise vie, etc., etc., ils étaient véritablement bien évincés. Ils ne rentraient pas finalement dans les normes. Et ils avaient des évaluations tendancieuses d'auto-glorification, tout simplement, mais il y avait une absence réelle eh bien, de satisfaction, parce que ça ne rend pas heureux. C'est pour ça que j'ai pris ce texte pour le joindre avec le sermon sur la montagne, quand Jean nous dit « mais moi je suis venu pour donner la vie » et qu'il l'est en abondance. Et c'est vrai que ce genre de raisonnement, ce genre de fonctionnement, ce genre de cache-cache en quelque sorte, cette hypocrisie, eh bien, c'est un état ennuyeux. Et ça n'attire pas les autres, au contraire. Et on le voit quelquefois, même autour de nous, quand il y a des gens qui ont cette tendance, avec cet état d'esprit, qui sont toujours derrière cette superficialité, eh bien, on s'aperçoit que les gens vont s'en apercevoir, et ce n'est pas un témoignage. Hein. Parce que la joie de Dieu, la joie en Jésus-Christ, n'existe pas et produit chez ceux qui s'y livrent et qui restent fermes dans cette dimension de vouloir finalement normaliser toute chose, eh bien, c'est un jugement sans compassion. Et considérant les autres différents comme mondains, on a l'exemple du fils aîné de la parabole dans Luc chapitre 15. Hein, il y a le pauvre, celui qui revient hein, en haillons, hein, et le père fait naturellement un festin à la fête parce que bon, il revient, il est repentant et il veut changer de vie. Et puis il y a le frère aîné qui est là en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Lui qui n'a jamais finalement fait, selon lui, il n'a jamais fait de mal. Et il juge son père, etc. Et c'est ça finalement, hein, c'est ce qu'il nous est dit. Et pourtant, il y a quelque chose qui manque dans tout cela, c'est un manque d'amour chez les hypocrites. Chez tous ceux qui ont deux langages de visage, ils manquent d'amour. Et quand on entend Paul nous dire, mais si, quand bien même j'aurai voilà, tous les dons, je connaîtrai tous les mystères, etc., si je n'ai pas l'amour, je ne fais rien. Ça, c'est certain. Et s'il y avait quelque chose qui faisait défaut chez les contemporains de Jésus et tous ces gens qui étaient là à se voiler avec toutes sortes de figuiers, eh bien, c'est parce que finalement, il n'y avait aucune considération, aucun amour pour les autres. Alors il y a des conséquences néfastes naturellement, et ces conséquences néfastes, c'est la stérilité, nous l'avons dit, et le discrédit de l'Évangile. Parce que ce christianisme-là, même s'il s'inspire de la vérité qui nous est donnée dans la parole de Dieu, c'est un évangile qui est surfait, tout simplement, on dira qu'il est artificiel. Alors il y a beaucoup d'attachements à des dogmes et des rituels démodés qui révulsent et qui, quelque part, éloignent plus qu'ils n'attirent, en raison de nombreuses astreintes et d'interdits religieux factuels, tout simplement. Et c'est vrai que nous avons besoin peut-être quelquefois de nous poser la question, même dans nos communautés, dans nos églises, en tant que chrétiens évangéliques, chrétiens nés de nouveau, appartenant à Jésus-Christ, donnant la priorité à la personne de Jésus plus qu'à l'Église, parce que ce n'est pas l'Église qui sauve. C'est un moyen que Dieu nous a donné pour nous enseigner, pour nous donner, de nous connaître les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, ça c'est une chose. Mais on s'aperçoit très vite que dans tout ce monde religieux artificiel, ce n'est plus Jésus qui est le premier. C'est toutes sortes de choses que l'on a mis, c'est toutes sortes de commandements d'hommes, c'est toutes sortes de choses visibles, palpables, comme tout ce qui est matériel autour de nous et qui a une connotation religieuse naturellement. Alors on donne de l'importance à tout ça, hein, et nous voyons qu'il n'y a pas de réalité spirituelle profonde dont la source d'inspiration n'est plus biblique, ni même évangélique. C'est religieux, tout simplement. C'est religieux. Et quand il y a quelquefois, et c'est à souhaiter qu'il y en ait de plus en plus, des gens qui viennent, et qui, là, eh bien, participent à notre démarche de foi, si véritablement on les enserre dans un message, dans un conditionnement d'astreinte, de dogme et de toutes sortes de choses, ils ne se tourneront jamais vers Jésus-Christ. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein, parce que ça va leur... Moi, personnellement, je ne voudrais pas pour moi-même. Mais je ne voudrais pas aussi l'imposer aux autres. Parce que c'est pour la liberté que Christ est venu. C'est pour nous donner une véritable vie, une vie en abondance. Mais il faut être vrai. Il ne faut pas feindre. Il ne faut pas jouer cette comédie de dire, eh bien voilà, il n'y a que les apparences. Parce que les apparences, à un moment ou à un autre, vont tomber. Alors il y a un mal en profondeur derrière tout cela. Alors naturellement, on l'a vu dans le Jardin d'Éden, c'était le péché, la désobéissance, ça c'est la racine. Mais le mal en profondeur, c'est que, au bout d'un certain temps, quand une communauté ou quand un chrétien, par exemple, se laisse prendre au piège ou adhère à ce genre de pensée, de doctrine, d'apparence, eh bien, il y a comme une ankylose morale et spirituelle. C'est-à-dire que, il n'y a plus grand-chose. Parce que vous savez ce qui fait la vie. Et ce qui fait la vie de notre corps, c'est le mouvement. Naturellement, nous avons des articulations, tout ça, heureusement, parce qu'autrement... Mais ce que Jésus nous enseigne, c'est de prêcher un évangile qui est vivant. Un évangile où il y a de l'huile. Et l'huile, ça évoque quelque chose, c'est la vie de l'esprit. Et là où l'évangile, où il n'y a plus l'esprit dans une présentation de l'évangile, eh bien, c'est raide, tout simplement. Et ça, c'est repoussant pour les gens. Une religion qui est raide, une religion qui n'est pas animée, qui n'a rien, qui finalement, où il n'y a pas la vie, ça c'est sûr. Et nous voyons que les vraies articulations de la vie ouvrent sur la liberté véritable d'un christianisme authentiquement vécu. Et ça c'est important. Je reviens à ce que nous dit Jean, et je vais terminer, quand il dit ceci, et c'est une belle parole, il dit ceci, « Moi je suis venu pour les brebis, afin qu'elles aient la vie, et qu'elles aient la vie en abondance. » Et la question que nous pouvons nous poser les uns et les autres, eh bien, elle tourne autour de ces quelques petites réflexions. En conclusion, nous pourrions dire que la paix, la joie, l'amour, la vie, ça, c'est l'abondance qui nous est donnée. Et je crois que nous avons besoin, nous, en tant que chrétiens, de pouvoir développer eh bien, ces trois choses, la paix, la joie, l'amour. Parce que c'est ça ce qui va avoir eh bien, là un magnétisme, en quelque sorte, pour attirer les autres. Si c'est le commandement, si c'est le précepte, si c'est la loi qui coupe tout en morceaux, comme faisaient les pharisiens, automatiquement, ça n'a pas de grands résultats. Et si Jésus en est la source, si l'Esprit de Christ en est véritablement eh bien, l'inspiration, le fruit en sera forcément au bénéfice de nous-mêmes, au bénéfice des autres qui réaliseront la véracité de notre engagement et qui n'aura rien d'artificiel à ce moment-là. Et oui, l'authenticité, la vérité, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment être vrai, réellement faire vraiment, dire vrai, vivre dans le vrai, être vrai, ça c'est l'essentiel. Alors, on pourrait peut-être ajouter ceci, sincère, naturel, réel, authentique, véridique. Ça, c'est la grande leçon que Jésus est venu apporter aux hommes. Ça commence par le sermon sur la montagne, et c'est bien ça d'ailleurs. Et ensuite, à travers tous ces enseignements subséquents, à travers les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, à travers le développement des enseignements de Paul, par exemple, et puis bien d'autres, je pense à Jacques et à Pierre. C'est ça ce que Jésus est venu dire à ceux qui voulaient adhérer à sa parole, adhérer, le suivre lui, donc cette sincérité, ce naturel, cette réalité. Et la question que peut-être je termine sur cela, c'est que ma vie reflète-t-elle l'image de Christ ou est-elle un repoussoir? Et ça c'est une question importante dans nos églises. C'est important lorsque nous sommes chrétiens, de dire mais est-ce que ma vie attire ou elle repousse ou elle refoule? Qu'est-ce que les gens peuvent voir en moi? S'ils voient la sincérité, la vérité, l'authenticité de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que la manière dont je me comporte, alors à ce moment-là, ça va être une attirance. Ça va être quelque chose qui va interpeller les gens. Mais nous vivons dans un monde aujourd'hui où la religion est quelque chose, qu'elle soit d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas me perdre dans des considérations et stigmatiser telle ou telle religion. Mais je veux dire que la religion de l'esprit, celle qui est inspirée, animée par l'esprit, c'est une religion qui gagne. C'est une religion qui apporte l'abondance et qui apporte l'envie, le goût. Vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Alors la question, mais ma vie reflète-t-elle l'image de Christ? En me voyant, est-ce qu'il ne voit pas aussi, eh bien là, tous les principes essentiels, fondamentaux que Jésus nous a enseignés? Ou alors, disent-ils, celui-ci, quelque part il ne vit pas, mais ce qu'il dit, ce que, en réalité, il veut laisser croire aux autres. Il ne le vit pas. Suis-je vrai ou suis-je artificiel? Ça, c'est aussi une question que nous pouvons nous poser. Suis-je enclin à juger? Parce que ça, c'est aussi un signe, c'est une preuve, c'est un élément qui nous fait, qui donne aux autres de pouvoir apprécier. Suis-je enclin à me comparer, à me surestimer? C'est ce que faisaient les pharisiens. C'était tout un concours à celui qui serait le premier. Et Jésus dit, celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. Oh, ça tombe comme un tranchant de guillotine, ça c'est clair. Suis-je à rechercher à promouvoir l'image surfaite de moi-même? Est-ce que je veux que les gens aient une bonne opinion de moi-même? Si véritablement, une bonne opinion, oui, mais dans la vérité. Mais si, je me présente et devant ceux qui me connaissent, ceux de l'extérieur qui ne connaissent pas Jésus, mais dont je suis quelque part l'ambassadeur de son royaume, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je n'ai pas besoin d'en faire plus que ce que je ne suis. C'est une réalité. Alors, à travers ce simple petit message, je pense que le texte que nous avons lu est suffisamment important pour nous donner de réfléchir et véritablement de vivre dans le vrai. De pouvoir être comme Jésus, et on peut se souvenir que nous sommes souvent exhortés à travers nos cantiques, eh bien, à prier Dieu pour être vrai, non pas des hypocrites, non pas des comédiens, non pas des gens qui jouent un rôle sous le manteau religieux, mais vraiment être authentique et vrai. Et on le chante très souvent à travers nos hymnes, et de pouvoir dire, eh bien, comme ça fait partie des paroles d'un petit cœur, donne-moi d'être vrai, parce que j'ai un prix à remporter et j'ai une victoire à gagner. Alors, vérité. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne sa grâce. Et surtout, on se souvient, ne faites pas comme qui s'imagine qu'à force d'eux. Non, c'est autre chose. La vie chrétienne et le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit qui nous a été donné nous conduira toujours vers la simplicité, l'humilité, la modestie et d'être ce que nous sommes. Et c'est là où nous serons grands. Celui qui veut être grand, eh bien, il devient petit. Enfin, il est petit en réalité. Et celui qui vit dans la modestie, comme Jésus nous en a donné l'exemple, alors à ce moment-là, c'est un grand devant Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons simplement remercier le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ce sujet, en effet cette thématique, qui nous montre qu'en effet, Seigneur, toi tu nous vois tels que nous sommes. Oui, nous voulons nous souvenir que dans ce texte de l'Ancien Testament, tu es celui qui lit dans les cœurs, comme dans un livre ouvert. Tu es celui qui véritablement, sait ce qu'il y a au fond des cœurs. Tu connais l'homme. Et nous croyons qu'il y a une imposture qui est pire que tout le reste. Même dans les choses indifférentes de la vie, les choses publiques, les choses qui appartiennent, Père éternel, à la vie des hommes sur la terre, c'est véritablement l'hypocrisie religieuse. De vouloir, en effet, laisser une apparence de bien, une apparence de meilleur, une apparence de vérité, et en mettant derrière cela des feuilles de figuier, oui Seigneur, en le masquant, en déguisant, en trafiquant, en dénaturant, Seigneur, la réalité. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que tu veux nous aider Seigneur à te prier, et à te prier malgré ce que nous sommes, et nous savons ce que nous sommes en réalité. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait de dichotomie, nous ne voulons pas qu'il y ait de visage, de langage. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nous soyons divisés en deux. Oui, nous sommes un en Jésus-Christ, c'est vrai dans l'ensemble du peuple de Dieu, mais nous sommes nous-mêmes, une personne entière et complète et totale. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier de ce que tu veux entendre notre prière. Seigneur, même si quelquefois nous avons tendance à déraper, à vouloir montrer aux autres ce que nous ne sommes pas, Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans ce domaine. Parce que nous voulons croire, Seigneur, que toi, tu vas nous aider. Tu vas nous secourir. Alors, merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, puisque nous voulons rester sur cette belle promesse. Je suis venu pour donner la vie à mes brebis et qu'elle l'ait en abondance. Nous croyons que sur le chemin de la duplicité, il n'y a pas de véritable vie. Il y a double vie, mais il n'y a pas la véritable vie. Alors merci Jésus, merci pour ta parole et que ton esprit Seigneur véritablement fasse l'œuvre que nous ne pourrons jamais faire, cette œuvre d'unité en nous-mêmes. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.